Sealcast présente la lecture commentée. Thème du jour, AI Safety and Alignment, avec Clara et Victor. Bonne écoute. Je précise mon crédit initial. Je pense qu'il a raison sur au moins un point empirique, et c'est celui qui structure tout le reste. Il cite un chiffre frappant. Sur 1534 contributions écrites au Global Dialogue de l'ONU, exactement une mentionne le mot « takeover ». Moins de 1% mentionne les risques existentiels. Et il estime que sur les 100 à 1000 décideurs les plus influents au monde, une majorité n'a jamais eu une seule conversation sérieuse sur le risque catastrophique. Si c'est même approximativement vrai, c'est un constat qui devrait bouger nos priors.
Aujourd'hui, on s'attaque à un essai qui circule pas mal sur l'Alignment Forum depuis quelques jours, signé par quelqu'un qui dirige un think tank de gouvernance IA. J'insiste sur cette précision parce qu'il la met lui-même en avant. Le titre est direct. « The current bottleneck is political will, not research. » Sa thèse tient en trois phrases. On sait déjà quoi faire en matière de safety. Les bonnes pratiques existent, mais elles ne sont ni appliquées ni imposées parce que les décideurs ne croient pas au problème. Donc il faut arrêter d'écrire des papiers et faire du plaidoyer. On va être en mode critique, Clara et moi, parce que la thèse est forte, mais je pense qu'elle a des angles morts.
D'accord sur le diagnostic. Mais regarde la formulation qu'il utilise. Je cite, « An additional unit of effort does more good through advocacy and engagement than through research. » C'est là que je décroche. Il passe d'un constat descriptif, l'advocacy est sous-investie, à une conclusion normative sur le rendement marginal, sans jamais faire le calcul. Est-ce que le marginal advocate déplace vraiment plus de décideurs que le marginal chercheur ne débloque de compréhension technique? Il ne monte pas, il l'affirme.
Et il ajoute un ratio qui m'a marqué. Dans le milieu de la high safety américain, il y a 3,6 chercheurs pour un advocate. Côté lobbying européen, l'industrie a obtenu 7 fois plus de réunions avec la Commission que la société civile en 2023. Là, je le suis complètement. Si tu veux que le plus grand nombre soit protégé d'un risque systémique, tu ne peux pas laisser le rapport de force être 7 contre 1 dans les couloirs de Bruxelles.
Sauf qu'il y a une asymétrie qu'il évacue. Il écrit lui-même, je cite, Research is how we keep finding unknown unknowns. Nothing in this post argues for stopping it. Bien. Mais alors sa métaphore du bottleneck est bancale. Un bottleneck, c'est ce qui limite le débit du système. Si demain tous les décideurs sont convaincus, mais que la recherche technique n'a pas produit de méthode d'évaluation robuste, ils légifèrent sur quoi? Sur les best practices actuelles, qui sont, il faut le dire, très préliminaires.
C'est un point juste. Moi, je pèserais ça différemment. Si tu prends deux options, option A, tu mets ton unité d'effort en recherche, option B en plaidoyer. Option A, gain concret si un problème technique est résolu, mais nul si personne n'écoute. Option B, gain concret si un décideur bascule, faible si le message n'accroche pas. Ce qu'il dit implicitement, c'est qu'en ce moment, le goulet est côté B. Ça me semble défendable, même si mal démontré.
C'est le contrepoint que je voulais poser. L'auteur suppose que « best practice already exist ». Existe au sens où quelqu'un les a écrites, oui. Existe au sens où on sait qu'elles réduisent le risque, c'est beaucoup moins clair. Mon intervalle de confiance sur un régime réglementaire international sérieux couperait la majeure partie du risque, c'est sa phrase, est très large. Il l'énonce comme une évidence. Moi, je la mettrais à peut-être 30 à 60% selon comment on définit sérieux et majeure partie.
Là, tu touches quelque chose. Et c'est marrant parce que les deux autres articles qu'on a sous la main, un sur Less Wrong sur les deals crédibles avec des IA schemers, l'autre sur Alignment Forum sur la value correction, ce sont exactement des exemples de recherche pas mûre du tout. Le papier sur les deals dit littéralement « Confidence, medium, it's unclear how tamper-resistant the deal mechanisms are ». La value correction, c'est un jouet théorique sur un mini-jeu. Si c'est ça notre boîte à outils quand les décideurs se réveillent, le plaidoyer arrive un peu tôt.
Oui. Et c'est là que son épistémique status honnête devient un peu à double tranchant. Il dit « Je dirige un think tank qui fait ça, pnait ça comme un conflit d'intérêts ou comme 2 ans de données. Je respecte la transparence. » Mais le lecteur ne peut pas trancher entre les deux sans voir les données justement. On a un plaidoyer pour le plaidoyer, écrit par quelqu'un dont le métier est le plaidoyer. Ça ne l'invalide pas, ça demande juste qu'on n'accepte pas la thèse au premier degré.
Il a une autre phrase qui m'a fait tiquer. Quand il dit qu'il faut juger le travail en gouvernance IA par « minds moved, not by clever papers ». Sur le principe, comme métrique d'impact d'un advocate, ok. Mais généraliser à tout le champ, c'est dangereux. parce qu'un esprit déplacé vers une mauvaise politique compte négativement, et tu ne sais souvent pas à l'avance dans quel sens tu le déplaces. Lui-même reconnaît plus loin, je cite, « I might be wrong about the net positiveness of some types of AI regulations. » Cette phrase devrait rendre humble sur la métrique « minds moved ».
Reformulons son argument le plus fort une dernière fois pour être fair. Il dit « On est peut-être à quelques années d'une catastrophe. La fenêtre d'attention ouverte par ce qu'il appelle Fable 5 est étroite. Les décideurs s'inquiètent des mauvais risques. C'est maintenant qu'il faut parler. Sur l'urgence temporelle, même si je ne partage pas ces timelines exactes, la logique « la fenêtre est étroite donc réalloue » est structurellement valide. Si tu crois vraiment aux timelines courtes, l'advocacy prend le pas mécaniquement.
Sur le modèle de political will qu'il propose, la pipeline en quatre niveaux, aware, convinced, engaged, champion, je trouve ça utile en fait. C'est un cadre opératoire pour un advocate. Le problème, c'est qu'il en déduit que passer un décideur du niveau 0 au niveau 1 est un bien clair. Ça dépend entièrement du niveau 1 vers quoi. Un décideur convaincu du risque existentiel mais qui pousse une régulation qui verrouille le marché au bénéfice de trois labs. Tu as fait quoi exactement pour Lindbergh's nombre?
Ce que je retiens de la critique, c'est que l'essai a un vrai constat empirique. Sous-investissement massif de l'advocacy, ratio 7 contre 1 côté industrie, quasi-absence du sujet X risque dans les enceintes multilatérales. Ce que je conteste, c'est le glissement du descriptif au normatif sans démonstration et le fait que best practice existe évacue la fragilité réelle de l'état de l'art technique.
Et c'est peut-être là le vrai désaccord caché. Sa conclusion tient si tu acceptes ces timelines. Si tu penses qu'on a 15 ans, la recherche technique reprend la priorité parce qu'elle compose. Si tu penses qu'on a 3 ans, il a raison, il faut secouer les décideurs maintenant avec les outils imparfaits qu'on a.
Bonne lecture malgré tout. Le genre de texte qui mérite qu'on discute avec précision.
Mon désaccord précis à moi, c'est qu'il traite le plaidoyer comme un bien en soi, une fois le décideur convaincu du bon problème. Or, ce qui compte pour les gens concernés à l'échelle où on parle, c'est que les décideurs convaincus poussent la bonne politique, pas juste une politique. Et sur ce point, l'essai est muet. Il faudrait un compagnon à cet article qui s'appelle « Once you've moved the mind, where do you move it to ?» C'est là qu'on en reste.